Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis, 10h30, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, Nicolas Stocker, assisté de l'Arastam. Ils ont eu le très grand, l'immense Paul-Marie Couteau, qui était ici présent, la grande figure Paul-Marie Couteau, qu'on salue bien entendu. Je fais un petit coucou, bien évidemment, à nos amis du Standard, Sylvie et Patrice. Ils ont la plus belle écriture de la station, donc forcément, on les pose le samedi et ils seront là pour récupérer tous vos commentaires que je vais lire, bien entendu, hein, ainsi que vos appels, donc appelez, inondez Radio Courtoisie et bien entendu. Et à la fin, le meilleur pour la fin, Arnaud, le réalisateur, le Jean-Claude Van Damme de la réalisation, le Steven Spielberg de Radio Courtoisie, il est l'unique, il est le seul, il est le sosie de Chuck Norris qui est parti malheureusement hier, et ben c'est Arnaud, il est là. Et lui aussi, il réalise comme personne. Aujourd'hui, nous allons parler pédocriminalité, c'est un grand sujet, un grand problème. Il faut dire la chose, la France en est contaminée, surtout par ses élites. On l'a vu par l'affaire Jeffrey Epstein. Et nous recevons donc du coup Farid DMS Deba, organisateur de ce grand rassemblement Stop à la pédocriminalité, la grande marche contre la pédocriminalité du samedi 4 avril à partir de 14h à la place de la République à Paris. Bonjour cher Farid, en effet, surtout là avec ce qu'on entend là depuis quelques temps, Patrick Bruel, tiens, dernièrement, encore un conseil de Paris, monsieur Jeannetet, conseil de Paris macroniste, des grands fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont tombés à cause de chemsex avec des mineurs. Des fonctionnaires de l'actuelle majorité, l'affaire Epstein, bien entendu, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Bonjour Mike, merci de m'accueillir dans ton émission. Effectivement, ça fait beaucoup, mais beaucoup d'accusations et très peu de condamnations, en tout cas, ou aussi très peu de mises en examen, apparemment, et c'est quelque chose qui, moi, m'interroge. Effectivement, le plus gros sujet, c'est l'affaire Epstein, qui concerne effectivement la France, même si notre cher Macron a dit que c'était une affaire américo-américaine. Naturellement, il avait omis de dire que son nom figurait dans les Epstein Files. Et pas que, il y a énormément de Français qui sont liés étroitement à cette affaire. Et malheureusement, force est de constater que Maine Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit « circuler, il n'y a rien à voir, il n'y aura pas d'enquête concernant cette affaire », chose qui est pour moi incompréhensible, tout en sachant qu'effectivement, Epstein avait un 800 mètres carrés appartement, grand appartement, pied-à-terre à Paris, 22 avenue Foch. Et on sait pertinemment que presque le tout Paris allait y aller s'encanailler, on va dire, dans ces soirées d'Epstein, tout en sachant qu'à cette époque-là, il était déjà condamné.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accusations et peu de condamnations? Et je mets de côté, bien entendu, l'affaire Epstein. Mais par exemple, on a eu ce juge de Besançon, je crois, du tribunal de Besançon, qui faisait violer sa fille par d'autres de congénères et qui n'a eu que du sursis.
Oui, je crois que c'était Dijon, je crois.
Ou Dijon, pardon. Ouais.
Effectivement, non, mais c'est quelque chose qui pour moi est de l'ordre de l'incompréhension totale. Et pas que, parce que c'est un message qui est envoyé en direction des victimes, qui est que... Enfin, il y a des chiffres, hein, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux officiels hein, du gouvernement, qui montrent qu'effectivement, il n'y a que 7% des affaires, lorsqu'il y a plainte et que ça arrive devant un juge, qui sont, on va dire, prises en compte. 7%. Et sur 7%, combien y a-t-il qui donnent lieu à une condamnation? Et sur ces condamnations, combien y a-t-il qui sont dues fermes? C'est-à-dire, c'est totalement dilué et à l'arrivée, les prédateurs n'écopent pour la plupart de pas grand-chose.
Comment on l'explique 7%?
Bah, on ne l'explique pas. Moi, j'ai du mal à comprendre, effectivement, que quelque part, il y a une certaine. Un certain, j'ai l'impression. Mon foutisme, je pense qu'il faut une pression populaire pour que on inverse la situation. À l'heure actuelle, il ne faut pas dédouaner aussi la possibilité du peuple de se faire entendre et de vouloir créer une société dans laquelle il désire exister. À l'heure actuelle, malheureusement, bah, il n'y a pas vraiment de relents de gens qui sont choqués par rapport à cette situation. Ils sont peut-être choqués dans le privé, mais sur la sphère, on va dire, publique, notamment lors de rassemblements, manifestations et même de prises de parole dans les médias, bah, on va dire qu'il n'y a pas grand remous. Et c'est pour ça il y a du sens dans cet grand rassemblement du 4 avril. C'est effectivement pour montrer qu'il y a foule, que la France, a malheureusement le nom de pédolante, mais il faudrait effectivement que ce nom puisse être totalement effacé.
Il faut dire aussi une chose aux gens qui nous écoutent. En France, nous sommes troisième contributeur de contenu pédopornographique et troisième consommateur au monde. Je parle au monde, hein, bien sûr. C'est-à-dire que plus que... Alors, je ne sais pas si... Qui est devancé?
Je crois qu'il y a les États-Unis et un autre pays, je crois européen d'ailleurs. Je crois que c'est les Pays-Bas d'ailleurs.
Les Pays-Bas, bon, ouais. Putain, c'est...
Attends, il est plus petit.
En plus, oui, mais bon, imagine, la France, c'est quand même pas non plus l'Inde, la Chine ou des pays comme ça.
Ouais, mais bon, là-bas, il y a des restrictions et puis ils s'amusent pas, quoi. Ah. En Chine, les pédocriminels, d'ailleurs...
Ça rigole pas.
Récemment, je crois qu'ils ont exécuté 3 pédocriminels.
Quoique, ici, en France, tout rigole, hein, ça, faut dire les choses, hein. Même Fourniret, qu'il est mort, lui, non, plutôt... d'autres serial killers, Guy Georges, même Guy Georges il rigole. C'est vrai que Guy Georges rigole avec celui qui a assassiné cette jeune dame là, Monsieur Daval. Voilà, avec Monsieur Daval. Voilà.
D'accord.
Donc okay. c'est en fait la prison. C'est en France c'est un peu la rigolade. Hein. Ça devrait pas l'être aussi. Et les peines sont aussi la rigolade. Ça pour le coup c'est une réalité parce que 7% seulement et parmi 7% si peu de gens condamnés. C'est à se demander que fait la justice, en fait.
Bah justement, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait l'interroger. Pour revenir sur le cas d'Epstein, il y a, en 2019, lors de la perquisition de son appartement avenue Foch, ils ont récupéré 4500 mails. Quid de ces mails? Au niveau de la justice, qu'est-ce qu'elle en a fait? J'aimerais bien savoir derrière, effectivement, il y a sûrement quelque chose qui en est sorti. Est-ce qu'il y a eu des mises en examen, etc. Ça fait quand même 6 ans, on n'a rien vu venir. Alors qu'aux États-Unis, bon, les États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, mais quelque part, ils mettent à disposition, même si pour la plupart, c'est caviardé, etc. Mais il y a, comme qui dirait, des leviers sur lesquels les Américains peuvent tirer. Et pour pouvoir, effectivement, on va dire, avoir accès à certaines informations. En France, c'est blackout total, hein. Il n'y a rien. On peut saisir la justice et il y a plein de cas comme ça où effectivement, bon, bah, circuler, il n'y a rien à voir. Comme je l'ai dit, hein, je parlais de Warren Buffett, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe en France. C'est cette volonté politique de ne rien voir. On a vu l'affaire Betaram. On avait soi-disant un Premier ministre qui était là pour protéger les Français. Il n'a même pas pu protéger sa propre fille. Alors que sa fille a témoigné en disant effectivement, bah, Betaram, voilà, on savait tous, moi-même j'ai été victime, etc. etc. Voilà ce qu'elle dit.
Elle était victime aussi?
Oui, elle était victime de sévices corporels, apparemment pas de viol. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème, une omerta par rapport à la protection des enfants, c'est qu'effectivement, bah, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et lorsque c'est fait, c'est tellement minimisé, tellement dilué que ce n'a pas, on va dire, le pouvoir escompté derrière. Et c'est ça qui est problématique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on peut dire, voilà, la France, quand même, l'État est responsable, notamment des enfants qu'elle place, notamment l'aide sociale à l'enfance. pour ceux qui nous écoutent, c'est l'ex-DAS, enfin, ils ont changé le nom, mais le système est exactement pareil. C'est un système, quelque part, qui est géré, on va dire, par les départements. Donc, chaque département a sa façon de gérer la ZEU. Donc, c'est pour vous dire que chacun pourra le faire. Voilà, c'est d'un département à un autre, il y a une autre politique qui est faite en faveur ou en défaveur des enfants. Donc, ça prouve effectivement qu'il y a un problème. Normalement, ce genre de gestion doit être nationale. Enfin, je ferme la parenthèse. Ça, c'est un point de vue personnel. Par rapport à des cas concrets, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, on se rend compte qu'effectivement, l'État ne protège pas les enfants. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres. Hein. D'ailleurs, il y a eu un rapport parlementaire qui est allé dans ce sens. Le premier réseau pédocriminel de France, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que les plus gros consommateurs de pédocriminalité, de victimes, c'est déjà l'aide sociale à l'enfance. Ah, ça, c'est le rapport parlementaire qui a pointé du doigt ça. C'est-à-dire qu'on retire des enfants d'un noyau problématique, d'une famille dysfonctionnelle. Bref, peu importe on le met soi-disant dans un lieu sécurisé qui n'est effectivement, in fine, pas du tout sécurisé. Au contraire. Et les premiers, on va dire, agresseurs d'enfants, ce sont les enfants eux-mêmes au sein de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout protégés, ni des uns ni des autres. C'est-à-dire que des enfants, ben, je sais pas moi, de 8 ans, 10 ans, sont avec des enfants de 15, 16 ans. Et ils peuvent partager la même chambre, et puis ils peuvent subir, etc. Donc c'est des enfants abîmés qu'on met dans une situation abîmée qui ne sont pas du tout, on va dire, protégés. Et pas que, il y a plein de situations qui sont complètement ubuesques qui fait que effectivement l'État ne protège absolument pas les enfants.
On a eu cet article du Parisien qui parlait de 15 000 enfants prostitués à l'aide sociale à l'enfance.
Oui. Et encore, je pense que les chiffres sont minorés. Sont minorés parce que ça, c'est les cas qu'on a pu identifier. Alors imaginez-vous, tous ceux qu'on n'a pas pu encore identifier, c'est carrément de l'ordre du scandale. Donc il faut bien prendre en compte qu'en France, l'enfant n'est pas, on va dire, n'est pas un sujet. C'est pour ça que moi, il y a 2 ans, quand j'avais fait la grande marche contre la pédocriminalité, le mot d'ordre, c'était que la lutte, justement, contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. À l'heure actuelle, c'est des prérogatives du Premier ministre de déclarer la lutte contre la pédocriminalité grande cause nationale.
Qu'est-ce que ça changerait ?
Bah, ça changerait qu'au niveau de toutes les institutions, on pourra faire des audits et dire effectivement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas par rapport, dans toutes les institutions, hein, que ce soit l'éducation nationale, qui devrait pour moi s'appeler l'instruction nationale, mais bon, ça c'est un autre débat, parce qu'on instruit, on n'éduque pas, l'éducation incombe aux parents, mais bon, ça un autre sujet. Sur l'éducation nationale, sur l'aide sociale à l'enfance, justement, et voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et pas que au niveau de la justice. Bref, à tous les niveaux, toutes les strates de la société sera mis à contribution, et c'est là où, effectivement, on peut, comme qui dirait, mettre à plat toutes les problématiques et faire en sorte d'avoir une politique globalisée pour justement protéger les enfants.
Alors, je crois que la violence faite aux femmes est une cause nationale. Pourtant, parmi les grandes associations, les grands organismes qui justement luttent contre la violence faite aux femmes, il n'y a pas eu de changement depuis, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas bouleversé la politique du gouvernement.
Non, mais ils ont eu un ministère des droits des hommes et des femmes, etc. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu même des actions qui ont été faites. Même si par la suite, bon, bah, c'est vrai que ça s'est dilué, mais on n'a même pas le droit à ça pour les enfants. On n'a même pas le droit à ça, cette considération-là. Voilà, donc il y a une journée de la femme, il n'y a pas une journée de protection des enfants.
Bien sûr.
Enfin, journée des droits des femmes.
Alors, mais, bon. Samedi 4 avril, 14h, place de la République. Je montre en plus, voilà, le flyer, très beau flyer, samedi 14h. Samedi 4 avril 2026, à partir de 14h, place de la République, pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Et je vois, tiens, nombre d'organismes qui co-organisent ce grand rassemblement.
Alors, c'est Touche pas à mon enfant Europe, dont je suis le président, qui est une association que j'ai créée en 2016. Bon, ça fait 10 ans maintenant. Mais alors, en fait, c'est une antenne européenne d'une ONG reconnue d'utilité publique et marocaine. Je ne suis pas d'origine marocaine, mais le hasard de la vie a fait que, durant un voyage professionnel, je me suis rendu au Maroc. Et là-bas, on m'a présenté la présidente de cette association. C'était en 2008. Elle venait de créer son association. Et en fait, on en a parlé. Elle m'a parlé de son combat. Elle m'a parlé de ce qu'elle voulait faire pour l'avenir. Et depuis ce jour-là, elle m'a happé dans son combat et son combat est devenu le mien, tout simplement. Et en fait, pourquoi je suis devenu représentant de cette ONG en 2016, en fait, c'est dur. Tout est une question, on va dire, de problématiques, notamment liées à la justice. En 2011, il y avait cette affaire, je ne sais pas, de Luc Ferry, que tu as dû entendre parler, Mike, sur un plateau de télé, c'était sur Canal, je crois, qui avait dit qu'il connaissait l'identité d'anciens ministres, d'hommes politiques très connus, qui allaient au Maroc,
qui
se fournissaient en gosses.
Monsieur Duhamel, qui était à côté de lui, parlait de la langue pendue, je crois, un truc comme ça, donc il voulait, je pense, je mets des guillemets au conditionnel, parler de Jacques Lang.
Ah oui. Peut-être, oui, mais bon, il n'y a pas que. Et nous, à cette époque-là, au niveau de Touche pas à mon enfant, au Maroc, on a saisi la justice, on a voulu effectivement que la justice entende Luc Ferry sur ses allégations, parce que moi, naïvement, je me croyais que lorsqu'on est témoin d'un crime, qu'on connaît l'identité de criminel, et qu'on ne voulait pas les dire, ça faisait de nous des complices.
Oui, mais il le connaissait parce qu'il l'avait vu faire ou c'est un oui-dire ? Ça, je ne me rappelle plus.
Non, après, vu vert, je n'en sais rien. Ça aurait été justement à la justice d'interroger.
D'accord.
Donc nous, on s'est porté partie civile. Ça a été la croix, la bannière pour effectivement...
Qu'est-ce qui s'est passé ? Tiens, raconte.
Qu'une association puisse essayer de se porter... association étrangère, puisse se porter partie civile sur le territoire français, on a remarqué que c'était très compliqué. Très, très difficile, etc. Donc déjà, à ce moment-là, a germé cette idée de créer cette antenne européenne. Et il s'avère que on a pris un avocat pour être représenté du droit français, qui a travaillé de concert avec notre avocat, qui est lui, sur Marrakech. Et il s'avérait que derrière, il n'y a rien. Quoi. La plainte a été classée sans suite. Je crois qu'il n'a jamais été entendu ni quoi que ce soit. Et c'est là où, effectivement, on a vu le désintérêt total de la politique par rapport, même de la justice française, par rapport à ces faits-là, ces crimes-là. Et pour faire un parallèle avec cette histoire de Luc Ferry, avec l'affaire Epstein, souvenez-vous, ça c'est vidéo, c'est documenté, où pendant qu'il est interrogé par la police de Palm Beach, je crois que le commissaire qui est en face de lui, enfin l'inspecteur, je ne sais pas comment on dit là-bas, lui pose la question sur des mineurs, des enfants de 12 ans, trois jeunes filles, qui lui auraient été offertes pour son anniversaire venant de France, qui avaient fait l'aller-retour dans les deux, trois jours, pour être offerte à ce mec-là. Ça, c'est documenté. C'est-à-dire que la justice américaine a ça dans ses tiroirs. Est-ce que la justice française s'est posée la question de savoir qui sont ces enfants ?
En plus de ça,
identifiés comme étant des enfants français qui sont sortis du territoire français, donc avec des papiers français, sans l'accord des parents, etc. Qu'est-ce qu'il en est de ces enfants-là ?
On a une quinzaine de mannequins, par exemple, d'ex-mannequins hier, qui ont porté plainte en disant que... Parce qu'ils portaient plainte contre la société Elite Top Model, qui expliquait qu'elles ont été violées.
Oui, Brunel, ça c'était par rapport
à... Non, c'est pas Brunel, c'était l'ancien... Brunel, c'est encore une autre agence de mannequins.
Encore. Non, c'est Elite, Brunel.
Oui. Là, je viens de dire. C'est notre agence, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Okay.
C'est contre Elite et un autre gars, je n'ai pas son nom, un type, Monsieur Marie, un truc comme ça, je crois. Et elles disent qu'elles ont toutes été violées en France.
Mais ça.
En France, hein.
Ouais.
Ça veut dire que voilà. Mais bon, ce n'est pas que de l'affaire Epstein, la pédocriminalité, parce qu'il n'y a pas Epstein qui était pédocriminel. C'est quand même un problème beaucoup plus global, si je puis dire.
Mais ce qui est intéressant avec l'affaire Epstein, c'est de faire le parallèle avec ce qui est fait dans les autres pays du monde, dans lesquels les noms de leurs concitoyens sortent. Il y a énormément de têtes qui tombent à l'étranger. Hein. On voit que comme quoi, effectivement, le frère du roi d'Angleterre, quand même, c'est pas rien. Il a été totalement déchu de tous ses titres, de toutes ses propriétés, de toute sa fortune, a été mis carrément au banc de la société, sans aucun procès, rien du tout, juste parce que c'est son nom. Enfin, il a été accusé, effectivement, et puis il y a eu un accord avec sa victime, d'ailleurs, qui s'est suicidée il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'est-à-dire il y a des choses qui se font à l'étranger, comme ça. Il y a le successeur de ton ami Claude Schwab. Enfin, je dis ton ami parce que tu as cette fameuse phrase que tu dis à chaque fois, chaque début d'émission, qui lui, effectivement,
a démissionné. C'est vrai que le patron de Davos a démissionné.
Exactement.
C'est quand même pas rien.
Donc, ça prouve qu'effectivement, à l'étranger, il y a les pressions et les mecs derrière prennent leurs responsabilités. En France, il n'y a rien.
D'ailleurs, qu'est-ce qui devient... Jacques Lang, bon, il doit être tranquillou, en train de siroter des cocktails. Bon, mais revenons au 4 avril 2026, à partir de 14h, place de la République. Donc, on a « Touche pas à mon enfant Europe » et puis d'autres organismes, d'autres ONG.
Oui, il y a une association qui est AMEWA, qui est une association de protection des... Justement, tu parlais des femmes, des droits des femmes. Et puis l'autre, le logo, c'est la grande marche contre la pédocriminalité. Et ça, c'était effectivement pour parler c'était de faire le lien avec la grande marche il y a 2 ans. Tu te souviens, ce périple, tu m'avais accueilli à l'époque.
On était déjà ici à Courtoisie.
Oui, exactement. J'étais vers la fin de la grande marche. Donc, lors de mon passage à Paris, tu m'as accueilli pour en parler. Et effectivement, le 4 avril marque les 2 ans. Donc, c'est une date anniversaire. Les 2 ans de la fin de la grande marche contre la pédocriminalité, c'était 1500 kilomètres à pied, 55 villes étapes. Et la particularité de cette grande marche, c'était que j'avais une perche avec un smartphone au bout. Et du début de l'étape jusqu'à la fin de l'étape, je faisais des lives TikTok. Hein, tu sais ce que c'est maintenant, des lives TikTok. Et des lives qui étaient retransmis également sur YouTube. Et je donnais la parole aux victimes. Et la particularité, c'est qu'il y a énormément de victimes qui se sont exprimées pour la première fois. Des personnes d'un certain âge. Moi, je me souviens j'ai encore ces témoignages-là, puisqu'ils sont toujours disponibles sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Ce sont des heures et des heures, et des centaines d'heures de live qu'on peut voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un sommaire, donc on peut voir très facilement les témoignages des victimes. Moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des personnes de 50, 60, 70 ans qui parlait pour la première fois et qui disait qu'effectivement, en prenant connaissance de cette grande marche contre la pédocriminalité, avait comme qui dirait un relent d'espoir. J'ai même reçu des messages de personnes, moi ça m'a le plus... c'est là où je me suis dit que j'ai réussi, c'est que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont vraiment ému et qui disaient qu'effectivement, ils ont évité l'irréparable en prenant connaissance de cette grande marche contre la pédocriminalité. Vous imaginez ? C'est-à-dire que des personnes étaient prêtes à en finir, et lorsqu'ils ont pris connaissance de cette marche, se sont dit, quelque part, peut-être que mon histoire, elle n'est pas si anodine que ça. Et ce rassemblement, effectivement, va dans ce sens. C'est-à-dire qu'on ne se rassemble pas pour montrer les muscles au gouvernement, etc. Ils n'en ont rien à cirer. Même si, bien sûr, la politique, c'est un rapport de force. Mais c'est avant tout un message envoyé aux victimes en disant « On est là, on est présent, on vous croit, on est avec vous ».
Justement, comment se passe ce rassemblement ? Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement ?
Déjà, j'espère qu'on sera nombreux. Il faut qu'on soit nombreux, parce qu'effectivement, là, ça a trop duré. Il faut que les victimes comprennent que maintenant, elles pourront parler, c'est-à-dire qu'elles sont soutenues, elles seront soutenues. Elles sont, grâce au nombre, il y a des gens qui prennent en compte leurs témoignages. Donc il y aura des gens qui viendront témoigner, des victimes, mais bien sûr avec beaucoup de pudeur, ça ne va pas être du voyeurisme, etc. Et aussi avoir certaines revendications, notamment au niveau de la prescription. On demande qu'il n'y ait pas de prescription sur les crimes en direction des enfants. À l'heure actuelle, à 48 ans, c'est-à-dire si t'as pas enfin, tu t'es pas réveillé avant 48 ans, bah après 48 ans et un jour, ça y est, c'est prescrit. Tu peux plus te retourner en direction de ton agresseur. Alors qu'on sait pertinemment que des traumatismes liés à l'enfance mettent énormément, énormément de temps à être, on va dire, digérés, même s'ils ne sont jamais digérés, mais où la victime prend conscience de ce cas de figure, de son traumatisme, et veuille bien aller au niveau de la justice. Et pas que, il y a aussi cette grande cause nationale. Pourquoi pas effectivement demander une enquête au niveau de l'affaire Epstein, ça c'est quelque chose qui est importante, et pas que aussi au niveau de l'ASE, de
j'ai une dame qui nous a appelé, elle dit « On a revu hier Camille Kouchner qui a résumé toute l'affaire qui a lié à l'affaire Duhamel et à la mort de Marie-France Pizier, c'est le même réseau ». Oui, il faut se rappeler qui était d'abord Duhamel. C'était un des grands patrons de Sciences Po. Sciences Po, vous voyez les choses, ça reste l'état profond. Hein, on forme les soi-disant futures élites. Et rappelez-vous, Marie-France Pizier, qui était la tante de Camille Kouchner, qui a dénoncé à chaque dîner en ville son beau-frère, Monsieur Duhamel, Monsieur Olivier Duhamel, et elle a fini, bien entendu, suicidée au fond de sa piscine, avec une chaise sur elle, une chaise de plage. Bon, enfin, c'est comme ça que ça se passe.
Je peux dire un petit mot justement sur l'affaire de Duhamel. Justement, c'était le frère je crois, le frère de Camille Kouchner qui a été victime.
C'est le fils de
Bernard Kouchner.
Voilà, c'est ça.
Bernard Kouchner, il faut le savoir, qui était signataire de cette tribune en 77 sur l'IB.
Ah, je ne savais pas, tiens.
Sur l'IB et Le Monde, qui justement réclamait la dépénalisation de la pédocriminalité.
Et
avec Jacques Lang, avec Simone de Beauvoir, avec
Jean-Paul
Sartre et compagnie. Quoi. Ça, les grands intellectuels français qui...
Et la mère était quasiment complice de M. Duhamel. La mère du frère de Camille Kouchner. Et il a fallu justement que Marie-France Pizier mette les pieds dans le plat à l'époque. Et ça lui a coûté sa vie.
Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu prescription par rapport à cette affaire.
Je crois, ouais.
Et c'est là où nous, on demande effectivement qu'il n'y ait pas prescription.
C'est vrai. C'est vrai que... Parce que comment ça se passe? Est-ce que... pourquoi pas de prescription? Parce que les gens vont vous dire... J'ai eu des gens, bien entendu, en reportage, qui m'ont dit « Ah, mais comment se fait-il que les victimes ne s'annoncent pas avant, etc. » J'imagine qu'il y a quand même... Psychologiquement, c'est pas si simple, hein.
Mais bien sûr, c'est horrible pour une victime de se reconstruire. C'est très compliqué pour celle qui arrive à se reconstruire. C'est très compliqué, ça. Les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est pas quelque chose, genre, tu sors... Il y a déjà l'état de sidération qui fait que la personne, lorsqu'il y a l'acte qui est commis, elle est dans un état, on va dire, un état de sidération qui l'empêche effectivement de bouger pour la plupart. De toute façon, il n'y a pas une seule façon de réagir. Donc, il n'y a pas une seule façon de digérer son traumatisme. Et il y a des gens qui ont cette capacité de pouvoir rebondir rapidement et d'autres qui ne l'ont pas. C'est très compliqué. Et la majorité, malheureusement, n'ont pas cette capacité, préfèrent, comme qui dirait, occulter. Parce qu'effectivement, pour pouvoir survivre, il y a le psyché fait que, enfin le cerveau fait que, hop, il y a un clapet qui se ferme et on met tout ça sous le tapis. D'ailleurs, après, ça devient des souvenirs traumatiques qui peuvent ressurgir par rapport à une situation, une odeur, une image, etc. Mais ça, c'est de l'ordre de la survie. Ça, c'est les pédopsychiatres qui peuvent le mieux en parler. Effectivement, comment ça se fait qu'il faut des années et des années pour pouvoir en parler. Mais parce que c'est compliqué. Parce que le cerveau humain a une mécanique très complexe qui fait que pour justement survivre, elle est obligée d'occulter.
Alors c'était l'agence Élite et le patron Gérard Marie. Voilà, parce qu'il n'avait pas que... il n'y avait pas que...
Brunel.
Que Brunel, hein. C'était plusieurs agences. Et d'ailleurs... Je rappelle aussi une chose. Pourquoi il y avait des agences de mannequins qui étaient complices? C'est parce qu'il y a eu des grandes entreprises qui ont travaillé, enfin des grandes entreprises liées au luxe, qui ont travaillé avec, qui auraient, j'utilise toujours le conditionnel, auraient travaillé avec M. Jeffrey Epstein. Je vais prendre l'exemple du patron d'Hermès qu'on a vu avec Jeffrey Epstein et M. Woody Allen. Et ils étaient visiblement très copains. Donc, tiens, qu'est-ce qu'a fait monsieur? Est-ce que la société Hermès a utilisé l'agence élite ou l'agence de mannequins de monsieur Brunel? Et quel était le rôle de l'agence Hermès? Est-ce que Hermès était au courant des agissements? On pose ces questions. Auditrice qui nous appelle, il n'y a pas que les enfants qui peuvent être enlevés, cela arrive aussi en France à de jeunes femmes majeures. Oui, bien sûr, ça arrive. Même des adultes sont enlevés aussi. Mais bon, là aujourd'hui, la thématique, c'est les enfants.
Oui, parce que je tiens à dire une chose, les enfants, eux, ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas lancer un rassemblement, ils ne peuvent pas aller dans les médias pour parler, ils ne peuvent pas, on va dire, interpeller les politiques.
Mais là où c'est intéressant avec ce que dit madame, c'est que la police aussi n'agit pas. Parce qu'il faut mettre aussi un coup à la police, je suis désolé. Quand vous êtes majeur, jeune majeur, madame a raison, vous allez voir à la police, ils vont vous dire oui, mais il est majeur, il fait ce qu'il veut. Ok. Mais j'ai remarqué que lorsque vous allez à la police dire oui, que devient mon enfant, il n'est pas revenu de l'école, etc. Eh ben, la police attend aussi 48 heures parce qu'ils vous disent oui, mais vous comprenez, il a fugué, il a machin. Alors que, et ça j'ai vu dans nombre d'affaires pour le coup, alors que cet enfant aurait pu être kidnappé par des prédateurs, et on sait très bien que les 24 premières heures sont les plus cruciales. Parce que voilà, justice, police, aujourd'hui, il faut se dire les choses. Alors, justice, plus peut-être niveau idéologique, police, peut-être plus à cause de certains moyens que la police n'a pas, mais en tout cas, ces deux corps de l'État dysfonctionnent, et ça, faut le dire.
Oui, c'est pour ça qu'il faut que ce soit une grande cause nationale, c'est-à-dire de mettre les pieds dans le plat et de revoir de fond en comble ce qui ne fonctionne pas dans tous ces services. C'est très important, effectivement. Pourquoi au niveau de la justice, il y a une certaine idéologie qui circule, qui permet certaines choses? Pourquoi il y a des prisons? Ça, vous pouvez le regarder, il y a des reportages, des documentaires qui sont faits spécifiquement pour les pédocriminels qui sont, je ne vais pas dire des Club Med, mais presque, ça, il faut le savoir, pour ce genre de cas. Et également, par rapport à la police, pourquoi il y a un manque de formation des agents, pourquoi il y a un manque de moyens et aussi de prise en considération. Mais derrière, les agents de police, les gendarmes, etc., ils voient effectivement qu'au niveau du procureur derrière, si une plainte elle est classée sans suite à chaque fois, il va se dire, mais pourquoi je vais commencer à me prendre la tête, à y mettre du temps, à y mettre de l'argent, du temps, pardon, des compétences des gens, etc., alors que je sais pertinemment que derrière, le procureur, de toute façon, il va dire, non, mais ça, c'est pas intéressant, classé sans suite. Donc, même pour les prises des plaintes, même si c'est obligatoire, bon, voilà, ça va être plutôt en dilettante, quoi.
Alors,
je ne dis pas tous, hein, mais certains peuvent penser comme ça.
Alors, un auditeur nous appelle. Toutes les associations de protection de la famille devraient participer à cette manifestation. Merci pour cette émission.
Bah, écoute, Mike, il y a à peu près un mois, j'ai lancé un appel de rassemblement. D'ailleurs, c'était chez toi, GPTV. Et effectivement, j'ai demandé la participation de tous. J'ai contacté une grande partie des associations. Mais pas que, hein, aussi les politiques, peu importe, gauche-droite, rien à cirer. Quand c'est les enfants, il faut y aller. Parce qu'il forçait se constater que ni la gauche, ni la droite, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite prennent, on va dire, à bras-le-corps le sujet des enfants. Ça, il suffit de lire leur programme. c'est plutôt light à ce niveau-là. Et j'ai pas eu de retour. C'est plutôt
même pour
froid.
Cette marche, pour cette rassemblement.
Ouais. C'est très froid, très tiède de la part des associations. Ils ont l'information, mais derrière il y a pas de relais, il y a pas de.
Quel type d'association? Des associations qui ont pignon sur rue, j'imagine.
Oui, celles qui ont pignon sur rue et celles qui l'ont moins. Et celles qui ont moins pignon sur rue. On n'a pas fait de discrimination, on a essayé de contacter la plupart des associations. Et celles qu'on n'a pas pu contacter, au moins, ils ont eu l'information via les réseaux sociaux. Parce que ce qui est bien, c'est effectivement, il y a une grand relais au niveau des réseaux sociaux. Ça, effectivement, l'information passe très bien.
Mais le grand problème dans ce pays, quand même, c'est qu'avec les associations... financé par l'argent public, c'est que tous ces gens se cloisonnent et veulent avoir le petit monopole sur leur propre sujet, et dès qu'ils voient quelqu'un parler du même sujet qu'eux, ça ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout.
Hein. Je sais pas, alors dans ce cas-là, est-ce qu'ils œuvrent pour les enfants, pour le bien commun?
Évidemment que non.
Ils
œuvrent pour leur trésorerie. Ouais. C'est le grand problème aujourd'hui des associations de loi 1901. Je le vois même par expérience. Ils œuvrent pour leur trésorerie.
Je tiens à signaler quand même, pas toutes les associations, parce que nous... Nous, les associations, enfin, Touche pas à mon enfant Europe, dont je suis le président, recevons zéro subvention publique. Voilà. On n'existe qu'à travers les dons des particuliers et des adhésions, tout simplement. On peut effectivement survivre que grâce justement à la générosité des particuliers. On n'a jamais, ça a été une volonté dès le départ, hein. On n'a jamais voulu demander de subventions, même des simples subventions au niveau de la mairie, hein, dont on aurait totalement le droit. Même ça, on s'y refuse, parce qu'on ne veut pas avoir de pression, même la plus petite pression, au niveau politique, sur les affaires qu'on a envie de traiter.
C'est ce qu'il y a de plus sain. C'est ce qu'il y a de plus sain pour le coup.
Parce que... mais c'est ce qu'il y a de plus difficile aussi. Parce que pour pouvoir maintenir, juste faire un rassemblement comme ça, ça a des coûts énormes. Et derrière, parce qu'il y a tout ce qui est sono, logistique, les impressions des flyers et compagnie, mobilisation des gens et tout, le service de sécurité, tout ça, c'est compliqué. Ça mobilise du monde, ça mobilise un budget. Et derrière, quand on n'a pas effectivement cette facilité de subvention, on fait avec ce qu'on peut.
Donc allez-y, 4 avril, 14h, place de la République. Avant le Bobino, dis-moi, il y a un site internet, quelque chose? Ou des réseaux?
Le site internet de l'association qui est Touche pas à mon enfant Europe. Donc c'est TPAME, donc Touche pas à mon enfant, -6 Europe.org. TPAME-6 Europe.org. Sinon, les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est la Grande Marche contre la pédocriminalité. Allez-y.
Donc, allez vraiment à ce rassemblement. Moi, en tout cas, j'y serai. C'est quand même important pour nos enfants. Mais on va passer sur la seconde partie d'émission. Mais avant ça, pas les petites annonces, hein, le Bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être aussi nombreux comme tous les samedis de 10h30 à midi au Libre Journal des Controverses. Aujourd'hui, je reçois Farid Demes-Debat, patron de Touche pas à mon enfant Europe.
Patron, ça fait un peu entreprise, hein, c'est
bon,
une
président,
association.
Voilà, président, allez, président de Touche pas à mon enfant Europe. Il organise ce samedi 4 avril à partir de 14h, place de la République, le grand rassemblement Stop à la pédocriminalité, pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Voilà, le petit flyer, je le montre parce que ce sera diffusé la semaine prochaine en vidéo. C'est important de faire ça. C'est très important. En effet, moi, je remarque quand même que l'enfant est le parent pauvre. Et le parent pauvre des politiques publiques, on le voit par l'école. On l'a vu avec la crise sanitaire. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait à nos enfants pendant la crise sanitaire. Rappelez-vous. Et ça n'a pas gêné nos amis de la gauche. D'ailleurs, je trouve qu'à gauche, ils ont été très favorables aux mesures sanitaires et très favorable à la fin de la liberté et au mal qui pouvait être fait à ses enfants. D'ailleurs, je reçois parfois des psychologues qui me disent que depuis, il y a des ruées vers les psys de la part d'enfants.
C'est vrai.
Voilà, c'est quand même hallucinant, quoi. Le fait que l'enfant, c'est-à-dire cette nouvelle génération, soit le parent pauvre, alors que... Ne serait-ce que pour des raisons même comptables, je dirais, hein, même pas pour des raisons d'affect, parce que la République n'a pas d'affect, mais pour des raisons comptables, étant donné que la protection sociale est payée par une génération pour une autre, il pourrait au moins avoir une forme d'investissement. Mais même ça, la République s'en fout. C'est hallucinant.
Non, mais c'est clairement ça. Là. Mais c'est symptomatique aussi, parce que malheureusement, il faut que... Que les gens prennent conscience que c'est juste à travers nous qu'on pourra améliorer les choses. C'est en se rassemblant, en faisant pression, en faisant corps pour que, effectivement, cette problématique soit prise en compte. Et à l'heure actuelle, effectivement, force est de constater que les politiques en ont absolument rien à faire. Ils en ont absolument rien à faire. Ce n'est pas dans leur programme. Très peu d'ailleurs, je vous invite tous, hein, au niveau des élections là, municipales, très peu sont sur la protection des enfants. Et ne parlons pas des politiques nationales. Vous regardez leur programme, que ce soit sur l'aide sociale à l'enfance, que ce soit sur la lutte contre la pédocriminalité, que ce soit sur la justice, eh bien, on voit qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose de fait. Et ça, ça en dit long sur notre pays. C'est-à-dire, derrière, quel citoyen on a envie pour notre pays ? Quelle France on a envie construire pour nos enfants ? Quelle France on va laisser à nos enfants demain ?
Alors, je vais lire la question d'un auditeur qui nous a appelé. Et moi, je lis quasiment tout. Et il y a transparence ici. Il n'y a pas dans d'autres radios, il y a transparence, mais je suis obligé de lire. Que peut-on attendre d'un pays où le président de la République serait... Monsieur utilise un affirmement. J'utilise un conditionnel, serait marié à un transsexuel et où le Premier ministre couche avec une ministre des Affaires étrangères. Enfin non, ça c'est pas l'actuel Premier ministre, c'était l'ancien, c'était M. Gabriel Attal. Voilà.
Non mais...
Oui mais bon, cet auditeur qui a appelé a raison. Que peut-on attendre d'un État qui est dépravé si ce n'est de lui mettre la pression?
Ben voilà, c'est pour ça qu'on se rassemble, c'est effectivement pour demander des comptes derrière. Mais en fait, regardez les amis, à partir du moment où on ne se bouge pas, où on ne se rassemble pas, où il n'y a pas de pression populaire, ben derrière c'est comme qui dirait, on légitime notre silence légitime leur politique. Il faut le savoir ça. Il n'y a pas, dites-moi, là de mémoire, les auditeurs peut-être ils vont répondre. Toi, Mike, tu vas y répondre. De mémoire, une grande manifestation, quand je dis grande, c'est genre au moins un maximum plus de 10 000, 20 000 personnes contre la pédocriminalité en France. La dernière manifestation, juste de mémoire, dis-moi.
Non, je n'en connais pas.
Par contre, si je te demande pour les agriculteurs, pour le prix de l'essence, tu pourras dire qu'effectivement, il y a du monde. Tu vois ce que je veux dire ?
Il n'y a pas de monde pour les agriculteurs, c'est eux, c'est eux qui par contre, faut dire les choses, hein, c'est eux qui manifestent. Il n'y a pas de monde pour les agriculteurs. Faut dire les choses. Attends, là, faut mettre les pieds dans le plat. On était, toi et moi, pour la ZFE, par exemple, il y avait, quoi, allez, 500 personnes à tout casser. En fait, aujourd'hui, ce qui rassemble un peu de monde, c'est lorsque les syndicats de fonctionnaires, CGT, machin, font des manifestations pour leur portefeuille. Voilà. Mais c'est vrai que, ou les retraites, des choses comme ça, il y a eu du monde. Mais hors ça, il n'y a rien. Il y a rien, il se passe plus rien dans ce pays, c'est quand même hallucinant, il ne se passe plus rien dans son pays. Et moi ce que je trouve dingue en France, pas évidemment parmi les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'on a la fine fleur des auditeurs de la bande FM, c'est que plus rien ne choque personne. Plus rien ne choque les gens. Enfin, je ne comprends pas en fait. Les gens, on leur, y a des crimes d'une atrocité sans nom. T'as parlé d'Epstein ? Ça choque pas les gens. Enfin, je comprends pas en fait. Les gens de la rue, les gens de la rue, pas ceux qui s'informent, qui écoutent Radio Courtoisie, qui écoutent, qui regardent les réseaux, machin. Eux, oui. Mais ceux qui sont, voilà, c'est-à-dire la majorité, la masse populaire, eux sont choqués de rien en fait. Je trouve ça dingue. Hein.
Bah, c'est ça qui est très... peut-être pas. Je vais pas dire ils sont choqués de rien, mais ils sont peut-être, on va dire, désillusionnés. Ils ont perdu espoir. L'espérance n'est plus dans ce pays. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'expectatif et ils se disent qu'effectivement, ils ne sont plus acteurs de leur vie, mais ils sont juste spectateurs. Ils ne peuvent plus, on va dire, agir sur leur environnement. Ils se disent à la rigueur, si j'arrive à survivre à demain, c'est déjà beaucoup.
Oui, mais quand on leur pose la question, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire ?
Bah justement, c'est pour ça. Ils sont dans le côté spectateur. Ils ne sont pas acteurs de leur propre vie, de leur propre destin. Et c'est un petit peu ça qu'on leur a retiré. On leur a fait croire qu'effectivement, ce bouger ne servait à rien. Mais ça, c'est voulu. C'est voulu qu'on leur fasse croire ça. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, on va dire, on a annihilé totalement leur capacité à se révolter. Ça s'est voulu.
Je me pose même la question si l'injection n'est pas allée aussi dans les cerveaux. Hein. Je me pose cette question de plus en plus. Hein.
Là, j'ai pas fait.
Je fais pas de complotisme là pour le coup parce que vraiment, mais vraiment, hein, je me pose la question. Hein, et j'essaie. Tiens, les auditeurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je me pose cette question. Est-ce que l'injection n'est pas allée dans les membranes du cerveau, n'a pas agi comme je ne sais quoi en fait. Bon, bref.
Mec, imagine-toi le 4 avril. Ça devient national. Parce qu'il faut le dire aussi une chose, c'est qu'à Bordeaux, il y a le 4 avril, 14h, un rassemblement qui s'est organisé suite à mon appel. Donc ça va être en réponse à, donc à Bordeaux, on sait qu'il y a effectivement un autre rassemblement, Place de la Bourse. Donc pour ceux qui sont à Bordeaux ou région, allez-y, c'est le même jour, la même heure, à Place de la Bourse. Donc quelque part, si cet élan devient national, mais ça devient nombreux. Imagine-toi, demain, le 4 avril, la place de la République, elle est noire de monde. Il y a 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Derrière, ça sera pas un non-sujet, les enfants.
Bien sûr.
Ça sera un sujet. Et là, on prendra vraiment en considération cette problématique.
Des médias seront présents ?
Oui, toi, tu l'as dit, bon. tu seras
mais,
présent.
Mais d'autres médias...
On a fait appel à tous les médias. Tous les médias sont au courant, les médias mainstream comme les autres. Donc après, bien sûr, hein,
ils sont au courant.
Ils sont au courant. Donc,
d'accord.
On aura envoyé le communiqué de presse. Donc le communiqué de presse qui est disponible effectivement aussi sur le site de l'association pour ceux qui le veulent. Et l'affiche également, vous pouvez la télécharger sur le site internet pour pouvoir effectivement la partager le maximum sur vos réseaux sociaux. Parce que pour compter, il faut qu'on soit nombreux, les amis. Il faut vraiment qu'on fasse la différence au niveau du nombre.
C'est
ça,
vrai.
C'est très, très important.
Alors, une dame nous envoie un message. « Bonjour, messieurs. Pour remettre les choses en place, on pourrait commencer par arrêter d'appeler justice ce qui est le système judiciaire. » Oui, c'est vrai. « Idem pour le terme élite à la place d'élu. » Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec madame. C'est totalement vrai. Pour le coup, il n'y a pas de justice. Il y a un vague mot... de système judiciaire, c'est vrai. Et pour lutter contre la pédocriminalité, commencez par interdire les prétendus cours d'éducation sexuelle dans les écoles qui ne servent qu'à préparer les petits gamins à cette pédocriminalité et qui violent leur imaginaire.
Ça, c'est tout un sujet, ça. Programme EDAR, ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique, effectivement. C'est... justement, venez et puis...
Mais parlons-en un peu de ce programme, parce que c'est quasiment l'éducation nationale qui valide un système.
Bah, en fait, ça vient d'une loi de 2001 à l'origine, qui est la loi Aubry, qui prévoit des cours d'éducation sexuelle à l'école. Bon, là, après, la problématique, c'est que pour les parents, ils ne sont pas forcément prévenus, ils ne connaissent pas forcément les contenus et ils ne savent pas qui intervient. C'est ça qui pose problème. Parce que effectivement, pour moi, il ne faudrait pas... Enfin, après, ça, c'est mon point de vue personnel. Il y a une grande partie de l'éducation à la sexualité qui devrait être faite en direction des parents. C'est-à-dire comment un parent doit se comporter vis-à-vis de ses enfants. Ça, c'est important. Parce que, à l'heure actuelle, nous, quand on reçoit des victimes, la première des choses, c'est de pouvoir comprendre et protéger l'enfant lorsqu'il est victime. C'est-à-dire que même, il y a la plupart du temps, une personne, quand elle ne sait pas comment réagir, elle réagit négativement. On a toujours vu, c'est pour ça qu'il y a un problème de secret dans les familles et tout, on a ce côté où l'enfant arrive et dit « oui, machin, tonton, tata m'a fait ci, m'a fait ça ». On a une réaction épidermique du parent qui n'a pas été préparé à ça et qui est plutôt dans le déni ou même parfois même allant jusqu'à la violence envers l'enfant. Ça déjà, si on arrive à éduquer les parents par rapport à ce fléau, pour savoir déjà détecter cette problématique chez l'enfant et à savoir comment réagir, déjà c'est un grand pas. Après, les gens me diront « oui, mais ce programme est en direction justement des familles dans lesquelles il y a des problématiques de pédocriminalité, d'inceste. » D'accord, mais ça n'empêche pas ma question précédente qui est qu'est-ce qui est dans ces programmes et qui intervient si c'est, on va dire, parce que chaque enfant est différent. Parler d'une chose qui est, de toute façon, regarder n'importe quel enfant à travers le monde, vous lui parlez de sexualité, la première des choses, il a un geste de dégoût. C'est quelque chose qui, intrinsèquement, est refusé par l'enfant, qui n'est pas accepté. C'est naturel, c'est comme ça. Donc déjà, savoir pouvoir, comme qui dirait, apaiser les familles en leur disant, effectivement, derrière, qui va donner ses cours. Un enfant, comme je l'ai dit, est différent à chaque fois. Chaque enfant a sa sensibilité, etc. Donc, est-ce qu'il y a un intervenant extérieur d'une association parfois même des fois politiques, hein, qui ont une certaine vision, va pouvoir effectivement avoir les mots justes selon le psyché, selon la sensibilité de chaque enfant, ça je ne sais pas. Ça c'est très problématique, je ne pense pas qu'il ait cette capacité, qu'il ait cette possibilité. Il y a aussi la pédagogie. Voilà. Est-ce qu'une personne a été formée pour être au contact avec les enfants ? À l'heure actuelle, c'est le flou artistique. Et je terminerai sur quelque chose qui, moi, me dit qu'effectivement, c'est un programme qui devrait être retiré. C'est à partir du moment où il n'y a pas de consensus établi auprès des professionnels. C'est-à-dire que les pédopsychiatres, les pros, il y a les pour et il y a les contre. Chacun va sortir ses arguments et chacun va se les balancer à la figure. Et les uns et les autres, voilà. À partir du moment où il n'y a pas de consensus, 1 plus 1 égale 2, pour moi, ça pose problème. Et les enfants, ce n'est pas des cobayes. On ne sait pas à l'heure actuelle, effectivement, si ces cours, ils ont une portée préjudiciable ou positive sur 20, 30, 40 ans, sur la psyché, sur le développement, sur la relation de l'enfant par rapport à l'autre, sur sa vie intime, etc. On n'en sait rien. À partir du moment où il n'y a pas consensus chez les professionnels, pour moi, il faut retirer ce truc-là.
Donc, je rappelle, samedi 4 avril, à partir de 14h, Paris, place de la République, stop à la pédocriminalité, grand rassemblement pour que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Alors, une ancienne sataniste a dit à un neuropsychiatre que, enfin, c'est un monsieur qui nous appelle, que le moyen le plus efficace pour atteindre Jésus-Christ, c'est de profaner les hosties et d'organiser l'initiation sexuelle à des jeunes enfants. Je ne suis pas surpris parce que, dit ce monsieur qui nous appelle, cette dame s'est plus tard convertie au catholicisme. Bravo, chère madame. Merci beaucoup, cher monsieur, de ce témoignage. Il faudrait faire des stages dénonçant le fait que les enfants ne sont pas des électeurs anciens de radio, je peux vous... Ah, ok, d'accord, c'est plus un truc personnel. Donc, je lis tout, ça prouve que je lis tout. Il ne faut pas dire kidnapper, mais de préférence enlever. Bon, pourquoi pas. Le consumérisme a atteint toute indignation et révolte d'une grande partie de la population. C'est vrai. C'est vrai, hein. Les gens sont devenus... ils sont pas que blasés, les gens. Ils sont devenus très individualistes. Enfin, je parle de la masse, hein, je parle de la masse.
Oui, mais je vais sortir des chiffres qui, pour moi, sont très parlants. Ce sont des chiffres officiels, ceux de la Civise, qui indiquent qu'il y a un enfant, toutes les 3 minutes, qui est victime d'agression sexuelle. 160 000 par an. Un enfant, toutes les 3 minutes. Ce chiffre fait réfléchir. Cet enfant-là, il a un environnement. Il a des parents. Bon, quand ce ne sont pas les parents, les bourreaux. Il a des frères, il a des sœurs, il a des tantes, des oncles, etc. Il a tout un, on va dire, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, un noyau familial. Eh bien, il faudrait que le nombre est là. 160 000, tu dis juste les parents, ça en fait du chiffre, par an. Voilà. Il y avait un chiffre qui rejoint à peu près la même chose, de l'INSERM cette fois, c'était de 1950 à 2020, il y a eu presque 6 millions de victimes d'actes pédocriminels en France. Presque 6 millions sur 68 millions. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est là où on se dit que la prise de conscience, elle doit être générale. Les gens sont peut-être en état de sidération, mais il faut passer ce cap de la sidération et il faut se dire il est temps d'agir. Epstein, pour moi, aurait dû être le déclencheur. Parce que les gens qui sont un petit peu plus informés, ils le savent. Ils savent qu'effectivement, à partir du moment où le domino de la pédocriminalité tombe, c'est tout l'état profond qui tombe. Ça, c'est, il faut le dire et le redire. Lorsque, justement, cette pierre angulaire tombera de la pédocriminalité, c'est tout l'état profond qui va tomber. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Epstein, il y a eu des grandes têtes, des grosses têtes qui sont sorties, notamment le numéro 1 Davos. Ça l'a fait sortir quelque part. C'est pas le frère du roi d'Angleterre.
C'est pas rien.
Ça prouve qu'effectivement, il y a un sujet.
Surtout que, bon, faut aussi dire les choses. Monsieur Epstein étant contribuable pendant 8 ans en France, et passant donc la moitié de sa vie en France... il a fait ce qu'il avait à faire. La crée ses crimes aussi en France. Et le fait que dans d'autres pays où les témoins, il y a des enquêtes, et dans des pays où il était tout le temps, il n'y en a pas, c'est quand même bizarre. Bref, mais sortons de l'affaire Epstein. Bonjour, il est très instructif d'observer la sortie des gamins et des parents de l'école primaire ainsi que le personnel enseignant. Peu de majeurs vivent debout. Nous n'avons plus d'enfants, mais des mômes, parents et enseignants devenus des gardes chiournes. La vie, c'est la transmission des aînés aux suivants. Mais qu'ont-ils à transmettre? Rien, sinon le programme de télé, les dernières phrases de leur vedette préférée et autres insignifiances qui ne construisent pas un être responsable qui sait d'où il vient et où il doit aller. C'est vrai. Et je remarque aussi une chose, c'est la disparition des grands-parents dans l'éducation des enfants.
Mais en règle générale, le monde occidental a perdu la cellule familiale, l'image même de ce qu'est une famille, dans le sens, on va dire, de l'image d'Épinal qu'on peut en faire, hein, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, etc. Maintenant, il faut savoir que l'image de la famille moderne, la plupart du temps, c'est une famille recomposée ou monoparentale, dans laquelle on a mis les vieux à l'EHPAD, en maison de retraite. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on revoie, notamment sur notre façon de traiter les aînés et de traiter les enfants. En Occident, on les traite très mal. On ne les prend pas en considération. Ce serait peut-être plus intéressant de voir ce qui se passe, notamment... en Méditerranée, enfin dans le bassin méditerranéen, alors, les pays par exemple en Espagne, en Italie, où on a plus de respect vis-à-vis des aînés, où ça marche un petit peu moins, ces idées d'EHPAD ou ce genre de choses, où effectivement la justice est un petit peu plus sévère envers les prédateurs, les agresseurs d'enfants. Et je pense que on serait un petit peu mieux à regarder un petit peu ce qui était notre héritage et ce qui était la France d'antan.
Alors, une dame
ça
me dit...
Ça fait un peu réac, hein, ce que je raconte.
Non, mais tu as totalement raison, on a Radio Courtoisie, de toute façon. Il ne faut pas oublier l'esprit sacrificiel des atteintes aux enfants.
Oui, mais après, peu importe ce qu'on met derrière. Moi, ce qui m'intéresse pas, c'est pas la raison, parce que j'ai pas envie d'être dans la tête du prédateur.
D'accord.
Ou par exemple, ils vont dire oui, je fais tel sacrifice pour invoquer tel. J'en ai rien à cirer. C'est pas ça. Le mec, il est taré déjà. Il peut croire ce qu'il veut. Il peut se dire que bouffer un gosse, ça va le rendre multimilliardaire et puis une star de la pop. C'est ses croyances à lui. C'est pas ses croyances à lui qui m'intéressent. C'est la victime derrière. Mais de par ses croyances, il va créer une victime. Et moi, je veux stopper ça. Donc, je n'ai pas envie de perdre du temps, de l'énergie à me rentrer dans sa tête, à savoir ce malade mental, ou c'est débile, c'est fou furieux. Qu'est-ce qui les motive à faire ça? Peu importe, et ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien qui justifie le fait de faire du mal à un enfant. Donc, je mettrai cette considération de côté et je me concentrerai plutôt sur la protection des enfants.
Alors, merci pour cette émission. Les gens ne bougent quand ils sont vraiment touchés. Manif pour tous, gilets jaunes, etc. Ça, c'est pas faux.
Oui, mais là, c'est les enfants de tous. Moi, ce que je comprends pas, c'est-à-dire, effectivement, cette vieille rengaine où on a des gens, moi, je le reçois, je le vois, j'en parle, etc., énormément de personnes qui me disent, surtout des hommes, qui me dit « Ouais, de toute façon, si ça arrive à mes gosses, moi, derrière, je le fume, etc. » Excusez-moi de parler de façon très, très triviale, mais c'est un petit peu la façon dont on me rapporte ces propos. En règle générale, on a cette configuration du gars, ou même de la meuf, hein, qui est du style bah, « S'il arrive un malheur à mon enfant, je vais aller voir son prédateur et je vais le buter. » Ouais, mais c'est aussi débile que déjà tu rajoutes un drame à un drame, mais c'est aussi débile que de dire « Je sais que la mare au crocodile, enfin cette mare-là, elle est remplie de crocodiles, je vais laisser mon gosse y nager, et au pire des cas, s'il se fait croquer, bah, j'irai chasser le crocodile et m'en faire des Santiago. » Non mais agis déjà en amont, fais en sorte de débarrasser cette mare des crocodiles pour que tes enfants puissent nager, on va dire, nager en toute sécurité. On sait pertinemment que la France, c'est pédolande. Alors, qu'est-ce que vous attendez, les gens, pour pouvoir vous réunir et faire en sorte qu'on puisse nettoyer cet étang des crocodiles?
Ben
tout
oui.
Simplement. C'est une. Je pense vraiment que cette analogie est importante. C'est-à-dire que je n'aime pas être dans le guérir. Je préfère être dans le prévenir. Et à l'heure actuelle, malheureusement, beaucoup trop de gens sont « Ah ben, je serai dans le guérir ». Ouais, mais il y aurait déjà un drame.
Et donc, il y a cette occasion, ce grand rassemblement du samedi 4 avril à partir de 14h, place de la République à Paris. Voilà. Stop à la pédocriminalité. Mais justement, voilà, ça doit rassembler tout le monde. Voilà. C'est un rassemblement qui rassemble tout le monde. Voilà.
Oui,
qui est ouvert à tous. Vous dire les choses.
Oui, c'est ouvert à tous. C'est apolitique. Transpartisan, il y a pas de, c'est ni la gauche ni la droite, voilà, c'est vous venez parce que vous êtes là pour les enfants, pour la protection des enfants. Comme je le dis et je le redis à chaque fois, les enfants n'ont pas la possibilité de manifester, n'ont pas la possibilité d'aller dans les médias pour en parler, n'ont pas la possibilité d'interpeller les politiques. Il n'y a que nous, les adultes, qui pouvons les protéger. À l'heure actuelle, force est de constater que les adultes ont totalement démissionné
souvent,
dans leur protection, dans ce fait-là.
Cette démission, souvent on me pose la question, est-ce qu'il y a eu un avant et un après à faire ou trop?
Bah oui. Oui, au niveau de la justice déjà. Par rapport à la création de, comment on appelle ça, du juge aux libertés. C'était un rôle qui n'existait pas.
Oui,
c'est-à-dire qu'on avait le juge d'instruction tout puissant qui se permettait de mettre tout le monde...
Oui, mais il y avait autre chose. Il y a autre chose, c'est que depuis cette affaire, la parole de l'enfant, surtout, elle est jugée moins crédible qu'autrefois.
Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je parlais du côté un petit peu où on a un mec... derrière, qui se croit tout puissant et qui peut mettre tout le monde en prison. D'ailleurs, on a eu des suicides, etc., à cause de ces incarcérations.
Comme l'affaire du petit Grégory.
Voilà. Derrière, il y a eu, comme qui dirait, une réponse, qui pour moi était une bonne réponse, d'un juge des libertés, qui permettait effectivement à avoir un regard neutre, totalement, on va dire, différent du juge d'instruction, et de pouvoir dire, effectivement, là, ça justifie ou non une incarcération. Ensuite, effectivement, on a eu quand même un avocat qui est devenu ministre de la Justice, et ça c'est documenté, qui aurait été totalement exécrable avec les victimes mineures. Voilà, avec des interrogations, des interrogatoires, pardon, qui ont été très éprouvants en direction des mineurs. Mais bon, après, c'est une volonté politique de mettre ce genre de
personnes. Oui, mais depuis, on le voit, la parole de l'enfant n'est plus d'or.
Elle a jamais été d'or. Elle a jamais été d'or. Même à l'époque d'Outreau, même avant d'Outreau, elle a jamais été d'or. Sinon, les affaires comme ça, il n'y en aurait pas. Bétarame, ça aurait été fermé depuis longtemps. L'affaire du Corral et compagnie. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut ressortir où, effectivement, les victimes n'ont pas été écoutées. Et ça dure depuis très longtemps, ça. Malheureusement, on n'entend pas les victimes. Et il faut, une pression populaire derrière pour que cet état d'esprit puisse changer, pour qu'on puisse considérer effectivement, un petit peu comme MeToo, on peut penser ce qu'on veut sur ça, sur ce mouvement, mais il faut savoir que le MeToo a fait tomber énormément de têtes, a permis effectivement à beaucoup de femmes, de victimes, de sortir du silence.
Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu un MeToo de l'enfant ?
Mais parce que les enfants ne peuvent pas tweeter.
Oui, mais les enfants adultes, des enfants qui ont subi adultes, justement, il n'y a pas eu ce MeToo derrière. Mais
parce que, comme je l'ai dit, la psyché est quelque chose de très compliqué. Déjà, un enfant, pour qu'il prenne conscience de son propre drame, c'est tout un travail. C'est un traumatisme qui dure pendant des années. Donc moi, je ne blâme pas les victimes en disant « Oh, regardez, pourquoi vous ne bougez pas, etc. » C'est très compliqué. Déjà, de se définir elles-mêmes comme victimes, parfois, elles n'ont pas conscience ou ne veulent pas, justement, pointer effectivement ce cas-là. La plupart du temps, se blâment elles-mêmes en disant « Je suis responsable, etc. » Alors que pas du tout, un enfant n'est jamais responsable. Et tout ça rentre en ligne de compte. Il y a d'autres cas de figure où effectivement la victime ne veut pas justement s'associer à ça parce qu'elle ne prend pas en compte son propre drame en disant effectivement je fais blackout total sur tout ça, sur tout ce qui est lié à la pédocriminalité, plus je vais m'éloigner et plus je me sentirai mieux. Ça, il faut le comprendre aussi. Enfin, il y a tout plein de cas de figure qui fait qu'on ne peut pas blâmer les victimes. Maintenant, je parlais de ceux qui ne le sont pas, mais qui sont au courant. Voilà, ceux qui ont, comme qui dirait, aucun trauma, tout va bien dans leur vie, mais ils savent qu'effectivement, il y a un problème dans notre pays lié à la protection des enfants. C'est de notre responsabilité, à nous, adultes, d'œuvrer dans ce sens. On n'a pas su protéger ces enfants, c'est pas aux anciennes victimes de faire en sorte qu'on se mobilise. C'est à nous de nous mobiliser déjà, parce que nous avons failli, en tant qu'adultes, pour protéger ces enfants, devenus adultes maintenant. Mais maintenant, je pense que c'est un mauvais procès de mettre la faute sur les victimes en disant « Ouais, c'était vous les premiers concernés, donc vous devez être là ». C'est pour ça que je parlais des familles, moi, d'abord, avant tout, des familles des victimes. Bien sûr, elles sont concernées dans leur cercle, parce que c'est leur enfant. Il n'y a rien de plus cher qu'un enfant. Mais, comme qui dirait, ils n'ont pas subi le traumatisme à un degré différent que l'enfant. Ont la possibilité de se rassembler.
Alors, une dame nous appelle. Il y a beaucoup de coups de fil. Hein. Tiens, pour le coup, Sylvie, là, elle fait sa marche quotidienne aujourd'hui à Radio Courtoisie. Hein. Bravo, vous êtes courageux. On ne parle jamais des œuvres et livres que l'on met dans la main des enfants. Il faut rééditer. Monsieur Claude Monchaud, écrit pour Nuire, édition Unie. On ne parle jamais de certaines rééditions dans lesquelles on insère des petits poissons. Histoire de Titeuf. C'est un scandale que des animateurs mettent des livres sur les genoux des enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme aussi de la part de Disney Plus et d'autres grandes firmes comme Netflix. Surtout Disney, hein. Disney est dans l'œil du cyclone à ce niveau-là, de mettre des petits inserts comme ça liés à la sexualité de l'enfant.
Ouais, mais bon, après ça, c'est si on reprend tous les vieux contes de Perrault et compagnie, on n'est pas sorti de l'auberge, effectivement. Ça, si on prend l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, c'est une sacrée camée, quoi. Et il n'y a pas que, hein. Si on prend le petit chaperon rouge, c'est sanglant, si elle se fait bouffer à la fin par le loup. Si on prend Pinocchio, ça, n'en parlons pas. Bref, si on reprend tous les vieux classiques, mais en allant directement dans l'œuvre originale, bah, croyez-moi, c'est bien différent. Mais bon, effectivement, il y a des choses à faire. Mais pour moi, la problématique n'est pas forcément liée aux œuvres.
J'ai appris aussi
elle
que...
est plutôt liée justement aux parents qui ne sont pas
mais
forcément
j'ai appris
éduqués
aussi,
à ça.
Qu'au cœur, au cœur de la lune, mon ami Pierrot était un conte un peu libertin, on va dire. Faut pas dire plus.
Ouais, bah,
mais c'est vrai que...
Pas que, hein, Blanche-Neige, tu vois d'autres, Cendrillon avec sa chaussure, qui est peut-être une analogie avec les rapports intimes, et le roi, comme par hasard, il ne reconnaît pas la princesse avec qui il a dansé toute la nuit, il y a cette perte de cette chaussure qui est une analogie à la virginité, et il va aller voir, il va faire un grand casting comme ça pour voir toutes les filles du royaume, pour essayer la chaussure. Donc, comprenez
oui,
ce
mais
que vous comprenez
c'est vrai que,
par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est toute une analogie très sexualisée sur,
moi,
sur
le
les
coup,
rapports.
Pour le coup, je ne veux pas non plus trop taper sur les questions des œuvres. Il y a une très jolie chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Trousse chemise ». Je ne sais pas si tu connais.
Non.
C'est une très jolie chanson de Charles Aznavour où... Bon, je ne le savais pas quand j'étais adolescent, quand j'ai entendu, mais là, bon, plus tard, je l'ai réécouté, je l'avais compris, qui parlait de viol entre adolescents, machin. Bon, et évidemment, la culture woke, t'as passé par là, ils ont voulu changer les paroles. Et bon, après, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, et peut-être moins avec madame. Les œuvres, voilà, on a des œuvres, elles sont ce qu'elles sont, elles sont écrites à des époques, voilà. Les gens disent un peu ce qu'ils veulent, même s'ils ont des fantasmes dans leurs œuvres. Bon, après, c'est vrai que ça peut être aussi différent par rapport au Netflix, au Disney+, où eux, ils ont peut-être une envie, bon, des envies différentes, on va dire, une vision de logique différente. Mais bon, en effet, c'est aussi une façon de déresponsabiliser les parents, de dire ah ouais mais c'est à cause de Netflix, mon enfant,
ah
machin.
Parce que qui décide de mettre ce programme-là, c'est les parents derrière.
C'est
aussi une certaine responsabilité.
Mais c'est vrai que notre génération, on est quand même des moins. Enfin, je vais pas m'englober dedans, mais bon, notre génération, vous comprenez, la majorité des gens des années 70, 80, voilà. Je sais pas si on est vraiment, si on n'a pas failli en tant que parents.
Ah, bah c'est possible, hein. Déjà en termes de protection, hein. Sinon il n'y aurait pas autant de victimes, malheureusement. Effectivement, et puis la société dans laquelle on est à l'heure actuelle, c'est l'héritage qu'on lèguera à nos enfants. Donc bien sûr qu'on est responsable de ça. Bien sûr qu'on est que la France d'aujourd'hui est l'image même de ce qu'on en a fait. Ouais, je me sens tributaire de ça, effectivement. C'est pour ça qu'il y a ce rassemblement. Et c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont faites. C'est pour ça qu'il y a des associations qui se créent et qui œuvrent pour le bien commun. C'est parce qu'effectivement, nous pallions à des manquements, que ce soit des générations précédentes, pour effectivement faire en sorte du mieux vivre pour les générations futures.
Regarde, les médias, parfois les jeunes, tapent beaucoup sur la baby-boomer, je trouve à tort. Bon, je suis désolé, j'en ai après-guerre.
Encore les baby-boomers.
Non, mais les gens nés après-guerre, je pense à tort. A raison pour certaines choses, parce que le problème, je pense que le grand défaut des gens nés après-guerre, c'est qu'ils ont eu, malheureusement pour eux, c'est pas le défaut, c'est la malchance plutôt, d'avoir eu comme représentants Cohn Bendit, les Johnny et compagnie, voilà, bon, ça c'est pas le... Mais moi je remarque, et je suis persuadé que le samedi 4 avril à 14h, nous aurons... une majorité de baby-boomers, entre guillemets, qui seront présents parce que c'est encore la dernière génération, je remarque, qui se mobilise dans des actions. Mais vraiment, hein ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Moi, je l'ai vu. Ben, je l'ai vu avec la manif pour tous. Je l'ai vu avec la crise sanitaire.
Ouais.
Voilà, je l'ai vu. J'ai remarqué que les moins de 45 ans...
Ça bougeait pas trop.
Alors, et moins de 45 ans, c'était pas beaucoup. Mais alors, les moins de 25 ans, c'était quasi zéro. Hein. C'était quasi zéro. Voilà. Et donc, aujourd'hui, faut dire une chose, le socle français repose encore sur cette génération qui tient encore le coup, qui a un phrasé, qui a une culture, qui se mobilise, qui est scandalisée dans leur chair par certaines choses et qui, voilà, qui d'ailleurs soutient financièrement, parce que c'est baby boomer, hein, qu'on dise des choses sur eux ou pas, c'est eux qui soutiennent encore financièrement leurs enfants, c'est encore eux qui soutiennent financièrement les associations, les médias, enfin certains médias comme par exemple Radio Courtoisie, tu vois. Voilà, ça, et je trouve qu'on fait un procès un peu trop vite contre cette génération.
Bah, bon. Peut-être parce qu'effectivement, ils sentent une certaine responsabilité de l'état de la France qui...
Bien sûr. Oui, bien sûr.
Qui nous lègue, on va dire, qui lègue aux générations à venir. Donc, quelque part, ils se disent, on a mal fait, on va faire en sorte de mieux faire. Donc, on va se mobiliser, on va... Mais effectivement, moi, tu parlais de la manif pour tous. Bah, j'aimerais bien que tous ceux qui étaient sortis pour la manif pour tous puissent être là. Parce que, quelque part, ils étaient pour une certaine idée de la France... Bah, j'espère que
ils seront
là pour effectivement la protection des enfants.
Moi, je vais te dire une chose, et c'est mon avis personnel. C'est mon avis. Le mariage pour tous. Il faudra abroger très vite cette loi, mais bon,
pour moi, il n'y a pas de lien.
Alors, un monsieur n'est pas content. Il me dit, oh là là, et maintenant, vous entretenez la confusion et l'erreur d'interprétation sur les comptes. Mais non, oh là là, justement, on expliquait que. Nous ne sommes pas des woke, comme on dit. Nous ne voulions pas que les comptes, justement, pour enfants soient censurés ou changés ou ce que vous voulez. Bon. Bonjour. Mai 68 est le mouvement fondateur de toutes ces déviances sexuelles et pédocriminelles liées souvent à cette gauche permissive. Eh oui. Eh oui. Et malheureusement, cette génération dont Sylvie et Patrice font partie, paye pour ces gens de mai 68, pour Cohn-Bendit et compagnie. Mais non, Sylvie, vous savez très bien. Le 4 avril, c'est la veille de Pâques et d'un très long week-end. Ben oui, c'est un veille de Pâques.
Moi, on me pose
la question. Fais tes Pâques à la République.
Voilà, puisque c'est, en plus de ça, Pâques, c'est, on va dire que... C'est surtout en direction des enfants, on va chercher les œufs, etc. Donc bon, ça a quelque part du sens. Mais le 4 avril, comme je l'ai dit, la grande marche contre la pédocriminalité s'est tenue du 1er février 2024 au 3 avril 2024. Donc là, c'est les 2 ans de la fin de la grande marche contre la pédocriminalité. Bah, je n'allais pas le faire un vendredi, hein, le 3 avril, vendredi. Je me suis dit, tant qu'à faire, pour avoir le maximum de gens... Le faire le 4 avril. Donc, bon, c'est venu...
L'important, c'est le dimanche.
C'est venu, voilà, le hasard a fait que
le dimanche et lundi, c'était ça qui est important.
Voilà,
le dimanche et lundi, donc venez le 4 avril à partir de 14h, place de la République. Il faut que les gens soient nombreux. Venez le plus nombreux possible. Voilà. C'est de quelle heure à quelle heure déjà ?
14h jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on décide de partir. Bon, la plupart du temps, ça dure jusqu'à 18h, 19h. Au niveau de la préfecture, on a mis 19h pour être large. Mais voilà, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'il y aura des intervenants particuliers, peut-être que l'on connaît, des Pierre Barnérias
Il y aura des intervenants particuliers, de qualité, mais pour l'instant, ils n'ont pas confirmé à 200%.
Nous avons Laurence Beuneux, par exemple, qui a écrit son dernier livre, qui me l'a envoyé, je la remercie.
Journaliste, qui a écrit des œuvres, notamment sur la pédocriminalité, qui est très au fait de tout ça.
Il faudrait l'inviter, elle.
Avec grand plaisir, oui.
Elle faudrait l'inviter, je suis sûr qu'elle viendra. D'ailleurs, son deuxième livre là vient à peine de sortir. J'ai plus le nom, mais je vais l'inviter très vite sur Radio Courtoisie.
Donc... Effectivement, il y aura des personnalités justement qui œuvrent contre la pédocriminalité, qui seront présents et qui, je l'espère, prendront la parole.
Voilà, c'est important d'être là, samedi 4 avril, 14h, place de la République. Voilà, je rabâche, mais il faut... Mais j'ai toujours des messages, on me dit, oui, mais c'est où, c'est quand, c'est machin. Bon, voilà, je l'ai rabâché 20 fois. Voilà, je montre en plus la petite publicité, le fascicule, le flyer. Voilà, il est là entre mes mains, donc allez-y, Venez nombreux, moi j'y serai, d'autres y seront, je sais que certains influenceurs dits patriotes y seront. Voilà, donc l'important étant de créer ce vrai gros rassemblement transpartisan où, voilà, où il faut, on va dire, célébrer un peu l'enfant, si je puis dire, voilà.
Oui, oui, il faut que les victimes sentent que ils sont plus isolés, qu'ils sont, comme je l'avais dit, j'avais raconté cette anecdote de ce message qu'une victime m'avait envoyé, pas que, il y en avait eu plusieurs, mais celui-là en particulier m'avait particulièrement ému, qui avait dit qu'elle était prête à commettre l'irréparable, mais quand elle a pris connaissance de la grande marche contre la pédocriminalité, à l'époque j'étais en train de marcher 1500 km, pour dénoncer voilà, ce fléau qui gangrène notre pays, elle dit qu'à partir du moment où j'ai pris connaissance de ça, ça m'a réconforté, et je me suis dit, enfin, il y a quelque chose. C'est une lueur d'espoir. Et moi, naïvement, à cette époque-là, je ne pensais pas que c'était la première grande marche qui a été faite en France. Et c'était lors d'une interview que j'avais donnée à Carl Zéro, qui, lui, m'avait dit effectivement que c'était, de mémoire, la première grande marche faite en France. Il avait cité la marche, mais qui s'était faite en Belgique, la marche blanche. Mais à part ça, rien ne s'était fait en France. Et comme je te l'avais dit tout à l'heure, cite-moi un seul grand rassemblement qui a réuni des milliers de personnes pour la protection des enfants en France. Il n'y en a pas. En tout cas, ça n'a pas fait autant de bruit qu'il l'aurait fallu. Et les victimes, ça, prennent conscience, en ont conscience, et savent qu'effectivement, ils ne sont pas entendus. Donc, derrière, ça les empêche non seulement d'en parler, de désigner leur agresseur, de déposer plainte, etc., etc. Il y a tout, quelque part, à partir du moment où leur statut de victime n'est pas reconnu, où ils ne se sentent pas protégés, où ils se disent qu'ils sont de toute façon dans une société permissive, pourquoi elles iraient dans un chemin de croix pour aller dénoncer un agresseur, aller dans une justice qui, 7% des plaintes arrivent devant un juge, et sur ces 7%, très peu sont les prédateurs, très peu sont condamnés. Quelque part, c'est un message violent qui est dirigé envers les victimes, c'est de toute façon, quoi que vous fassiez, à la rigueur, vous n'aurez rien. Et c'est un message dégueulasse envoyé aux prédateurs, parce que, quelque part, que dit la justice par rapport à tout ça? Faites-vous plaisir, les gars. Au pire des cas, si vous vous faites choper, vous aurez un bracelet électronique. Ça, c'est vraiment au pire des cas, quoi. Et ça, mais quelle horreur! Quelle horreur! Ça en dit quoi, ça, de la France? C'est pour ça que, malheureusement, il a ce triste sobriquet de pédolande. Et ça, il faut que ça change. Et il faut que le 4 avril, effectivement, les victimes sentent qu'on est nombreux. Qu'on est nombreux à les soutenir, qu'on est nombreux à leur réclamer, effectivement, que tout ça change, qu'on mette tout à plat et que la justice soit véritablement la justice, que l'éducation nationale devienne une vraie, un système pour éduquer nos enfants, enfin pour les instruire, je veux dire, et pour les protéger, idem pour l'ASE, etc., etc. Bref, à tous les strates, de la société. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Là, les enfants ne sont pas protégés, et puis les politiques ne s'y intéressent pas, mais parce qu'il n'y a pas foule derrière. S'il y avait du monde, crois-moi, derrière, Mike, tous les politiques diront « Ouais, mais moi, c'est ma priorité, moi, c'est quelque chose, c'est mon cheval de bataille, j'ai toujours... » Voilà, ils vont tous sortir comme des champignons après la pluie en disant effectivement que le droit des enfants, c'est leur priorité. Mais parce que derrière, il y aurait eu foule. La politique, c'est un rapport de force. Il faut qu'on ait un rapport de force avec tous ceux qui nous dirigent, et ce rapport de force, on ne l'aura qu'en étant nombreux.
Ouais, c'est fou, quand même. C'est vrai que les politiciens réagissent comme ça, malheureusement. Tiens, dernière question. Allez, dernière question. On est à 3 minutes de la fin de l'émission. Par rapport à tout ça, c'est parfait comme idée, mais la date est quasiment mal choisie. Je le crains qu'il n'y ait pas... Oh là là, non. Il y aura du monde. La date choisie, c'est le 4 avril. Ok, c'est vrai qu'il y a dimanche de Pâques, lundi de Pâques.
C'est un samedi.
Vous pourrez, je veux dire, si en effet la cause des enfants vous intéresse, ne vous inquiétez pas, le Christ est d'accord avec cette manifestation. Et il ne va pas. D'ailleurs, le samedi, c'est pas C'est important, c'est vrai, mais pas autant que le dimanche.
Non, voilà. Mais justement, c'est important aussi dans les idées. C'est ça aussi. Et puis, je tiens à dire à cette personne, c'est que, en règle générale, soit on cherche des excuses pour ne pas faire, ou soit on fait. Voilà, moi, je préfère faire et ne pas chercher des
Bien
excuses.
Sûr.
Parce qu'une personne qui ne voudra pas faire, elle sera, de toute façon, elle trouvera toujours des excuses.
C'est vrai.
Voilà, donc il n'y a pas d'excuse
donc,
pour ceux qui veulent.
Samedi
4 avril.
4 avril, 14h, place de la République. Voilà, comment s'inscrire, tiens, au site de Touche pas à mon enfant.
Ah oui, ça c'est très important parce qu'effectivement, nous ne vivons que de dons et d'adhésion. Donc, c'est très très important pour nous, pour l'existence même de notre association, pour nous permettre effectivement de faire ce genre d'événements. Donc, c'est le site internet. Tapez sur internet « Touche pas à mon enfant Europe » et là, vous tomberez directement sur le site. Ou bien, vous le tapez directement, c'est TPAME, donc les initiales de « Touche pas à mon enfant », tiré du 6, donc le tiré du milieu, europe.org et vous tomberez sur la page de notre association. On a besoin du maximum de gens. Et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre au rassemblement, on aura un stand de l'association. Donc n'hésitez pas, on sera là pour vous accueillir.
Merci à vous d'avoir été si nombreux, comme tous les samedis. Beaucoup de commentaires, beaucoup de coups de fil. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Controverses, dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct samedi 21 mars 2026 de 10h30 à midi et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.